Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, du son et du sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assisté de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Ronan Mahé et Henri Bérec.
Au sommaire cette semaine, qui sonne le glas des coplas et l'alali laïque, français, vous serez peut-être chômeur, mais laïque.
Donc on ne peut pas fermer les yeux et mettre la poussière sous le tapis.
Et puis autre chose, parce que là on fait la tournée des QG, est-ce que vous n'avez pas une petite aide à nous pour qu'on nous ouvre les portes plus facilement? François par exemple, si c'était possible.
François Hollande.
Est-ce que les terroristes sont des musulmans?
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Le monsieur vous l'a dit, là, à l'instant, faut pas fermer les yeux et mettre la poussière sous le tapis. Car voici venu le moment de l'alali. Et la bête pourchassée, le gros mouton au milieu du salon, c'est celui qui ne respecte pas notre sacro-sainte laïcité. Car de gauche comme de droite, des tenants d'une version extrémiste à ceux d'un accommodement raisonnable, pas une journée sans que le débat soit relancé. Il ne s'agit pas, bien sûr, de déboulonner toutes les statues de la Vierge, d'abattre les calvaires au carrefour, ou de faire taire les clochers des églises. Non, personne n'est dupe et derrière l'alali laïque, c'est bien l'alal tout court qui est visé. Alors pendant que Guy Vanctil arpente les meetings d'une gauche qui se déchire entre laïcards et islamo-gauchistes, Antoine Chao, lui, fait le tour des QG de campagne avec les ex-salariés d'Ecoplat, fabricants de barquettes en alu, aujourd'hui sans emploi. Chômeurs, mais laïcs ceux-là. Alors ça va, et ça s'agite moins du coup quand sonne le glas d'une petite entreprise. C'est le deuxième épisode d'une saga débutée à la rencontre d'Emmanuel Macron et qui s'achèvera mercredi prochain quand le tribunal décidera en appel si Ecoplat vivra en SCOP ou pas. Comme un bruit qui court, l'alali laïque et qui sonne le glas d'Ecoplat, c'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est parti.
Antoine Chao.
Charlotte Berry.
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Sur France Inter.
Gare de Lyon, mardi 20 septembre. C'est le retour de la délégation d'Ecoplat sur Paris pour faire la tournée des QG de campagne.
Ecoplat, vivra, Ecoplat.
On se dirige porte de Clignancourt. On va prendre nos quartiers là-bas et à 14h, on est chez Jean-Luc Mélenchon.
Donc cette entreprise, elle a été pillée, elle a été liquidée par des fonds de pension américains, une banque anglaise et un actionnaire, pour la finir, un actionnaire sino-australien, unique actionnaire de l'entreprise. Donc il a disparu depuis, on l'a plus jamais revu.
L'actionnaire. Il n'est pas présent dans la procédure judiciaire.
Il est invité à chaque fois. Il est invité, mais il ne vient jamais. Non, c'est ça, nous on se bat, on va voir à droite, à gauche, mais lui par contre on le laisse tranquille, on lui dit rien, quoi. C'est un truc de dingue quand même. Alors qu'il a touché le CICE, il a touché le chômage partiel, il a touché la recherche et le développement, et ça, il a été reçu par Macron. C'est pour ça qu'on a un peu chahuté, monsieur Macron.
J'ai jamais perdu le chahuté. Et le motif du tribunal de commerce, c'est quoi son argument?
Il se cache derrière la loi qui dit qu'il faut rembourser les AGS et les emplois n'est pas une priorité. En liquidation, en fait. Si on aurait été en période de redressement, ils auraient pris en compte les emplois, mais en liquidation, ils ne prennent pas les emplois en compte. Ils prennent que l'argent.
Ecoplat, vivra, Ecoplat.
Oui, ils étaient de retour à la capitale la semaine dernière, les Ecoplat. Et ils n'ont pas chômé, même s'ils pointent à Pôle emploi. Et le patron voyou, lui, celui qui a coulé la boîte, il est passé où? Jerry Rennes, l'actionnaire cynique et sino-australien. Oui, cynique selon Emmanuel Macron, converti dernièrement à la lutte sociale, après l'avoir accueilli en grande pompe à Bercy. Il a pris la fuite, mais on ne désespère pas que la justice, et pourquoi pas le même tribunal de commerce de Grenoble, qui s'est empressé de liquider Ecoplat et de mettre tout le monde au chômage, ne lui demande un jour de rendre des comptes. Ou alors il n'y a que les ouvriers qui trinquent.
Oh, ma brique est court.
Alors Karine, vous venez de rencontrer Jean-Luc Mélenchon, vous êtes revenu à Paris pour faire la tournée des QG de campagne, c'est ça? Oui,
exactement. On espère encore et toujours, hein, on lâche pas le morceau, on est toujours combatif. Si on peut obtenir un engagement, des signatures et si ça peut faire peser dans la balance, bah, on y va. Voilà. Alors on n'est pas prêt à tout. Hein.
Karine, vous n'avez pas repris le bus Macron, alors, cette fois-ci?
Ah non, non, non. Là, on a pris les trains Alstom. Et justement, c'est pour démontrer qu'on fait preuve de patriotisme industriel et qu'on n'hésite pas à utiliser un savoir-faire français. Nous. Et puis en plus, c'est plus confortable, c'est plus rapide et la Wi-Fi marche bien.
Bah, c'est CFDT, là, c'est ça?
Ouais. Monsieur Berger.
Alors Sylvain, la porte.
En tant que coach sportif fakérien, quoi. Je vais les faire tourner un peu partout dans Paris. Là, c'est tranquille cet après-midi. Et puis demain et après-demain, il va falloir enchaîner. Hombourg, Hamon, Sarko, Juppé, Bruno Le Maire, tout ça. Bon, bah vous y allez.
Allez,
viens. Ouais, ouais.
Alors voilà, Christophe, Karine et Gaëtan sont reçus à la CFDT.
Alors
nul à chier.
Je comprends pourquoi je suis à la CGT. Hein.
Oui, monsieur le maire. Oui, bonjour. On vous a envoyé un mail la semaine dernière à votre QG pour voir si on pouvait vous rencontrer parce qu'on est un peu dans la panade pour la reprise de notre entreprise. Et donc on fait un peu la tournée des QG. Voilà, on est venu spécialement 3 jours sur Paris pour vous rencontrer, quoi, notamment. Vous partez très tôt demain matin pour l'Alsace. Bien sûr, parce qu'après, bon, bah, si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un de votre équipe, quoi, à l'économie ou à... Alors, moi, c'est Sylvain Laporte. Et on est là pendant 2 jours encore, quoi, jusqu'à jeudi, même vendredi s'il faut. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Alors, je téléphone à... Donc c'est la directrice de com de Nicolas Sarkozy. Et Christophe, je lui dis quoi, moi? Bonjour, bonjour Madame Vacher, c'est Sylvain Laporte, je travaille au journal Fakir, je suis avec les salariés d'Ecopla. Donc on avait appelé le QG de campagne de Nicolas Sarkozy la semaine dernière. N'hésitez pas à nous rappeler au 06 60 60 47 30.
Ecopla, vivra Ecopla.
Bon, on essaye d'aller chez Alain Juppé alors.
Ecopla, vivra.
Oui, bonjour, je m'excuse de vous déranger. On a un groupe de salariés d'une entreprise qui s'appelle Ecopla en Isère. Et on a envoyé un mail au QG de Monsieur Juppé. Alors j'ai l'adresse du QG, mais on n'a pas trouvé de numéro de téléphone de service presse ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, on avait prévu de passer le voir. Ok, très bien.
Monsieur Montebourg ? Oui, bonjour. Christophe Chevalier, je fais partie d'un collectif d'Ecoplascope. On s'est rencontrés à la fête de l'humanité. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Demain ? Ouais, c'est possible, ouais. Demain, à quelle heure ? D'accord. Demain, 18h. Ouais, 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 c'est ça, c'est le mien, ouais. Voilà. Ok, très bien, merci. Merci, monsieur Montebourg. Bonne soirée, au revoir.
Vous venez de rencontrer monsieur Théier, donc qui est de l'équipe de campagne d'Alain Juppé. Donc vous faites la tournée des QG cette semaine à Paris. Christophe ou Karine peut-être?
Oui, alors donc ce matin on a petit déjeuner à l'Assemblée nationale. Et oui, on était avec Martial Sadier, vice-président de la région. On sentait un intérêt sincère et enthousiaste. Donc déjà ça nous met de bonne humeur. Bon, mais maintenant, on fait attention à ne pas être trop enthousiaste, parce qu'on a quand même eu beaucoup de mauvaises nouvelles, donc on attend surtout des engagements concrets. Voilà. Donc lui, il s'est engagé à signer le document qu'on lui a transmis, il l'a signé tout de suite, de nous apporter une aide financière, le cas échéant, à confirmer avec son service économique. Et puis, pourquoi pas venir visiter l'usine. Et si c'est pas lui, ce sera quelqu'un du conseil régional et qui est basé sur Grenoble. Voilà, c'est ce qu'on propose d'ailleurs à tout le monde, hein, s'ils veulent venir visiter l'usine, parce que c'est très parlant. L'outil est prêt à redémarrer.
Christophe, alors Karine parlait de mauvaises nouvelles. Et une des premières mauvaises nouvelles, ça a été quand même la décision du tribunal de commerce d'attribuer les machines à votre concurrent, à Cookie, c'est ça, votre concurrent italien. Comment vous expliquez cette décision prise par le tribunal de commerce de Grenoble ?
Si j'avais la réponse, j'aurais pu le dire. Mais là, en fait, on a déposé le dossier le 13 juin, le projet, au niveau du liquidateur. Le 16, il nous a répondu, comme quoi il ne prenait pas notre projet de reprise en scope. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas compris pourquoi, quoi. On sait qu'ils prennent 1,5 million pour rembourser les AGS, le fonds de garantie des salaires. Mais dans notre tête, on ne comprend pas comment ça se fait que dans un gouvernement qui qui dit qu'il va renverser la courbe du chômage, ils prennent les 1,5 million et les salariés restent sur le trottoir.
Les gens qui nous jugent au tribunal, ce sont quand même des patrons d'entreprise. Donc écouter des salariés et donner raison à des salariés qui depuis 3 ans dénonçaient, enfin, on avait prédit ce qui est arrivé, c'est nous qui avions raison en fin de compte. Sur notre page Facebook, qui est animé par un ex-salarié, on a eu des commentaires sur les tribunaux de commerce. Ce qu'on a découvert d'ailleurs, parce que très franchement, c'était une partie qu'on ne connaissait vraiment pas.
Hashtag comme un bruit.
Ça y est, là, on prend le TGV dans 10 minutes. On est allé à l'Elysée, on s'est fait recevoir sur le trottoir.
On se dirige porte de Clignancourt.
Ils nous ont pris nos identités et tout. Mais bon, ils nous ont a priori fait un traitement de faveur parce que tout le monde ne se fait pas recevoir comme ça, surtout dans le contexte Vigipirate et dans les délais dans lesquels ils ont été prévenus. C'est vrai que ça fait que 2 ans qu'on est dans la merde. Donc ils n'étaient pas trop au courant.
Alors Karine, Ecoplascope vivra ?
Ah, bien sûr. On avait 1% de chance, maintenant on est à 50%, puis la semaine prochaine 80%, puis le 5, 100%.
Christophe, ça a été quoi le périple là, sur ces deux grosses journées à Paris hein?
Ouais. On va dire que c'est positif, par contre ouais, on a l'impression d'être vraiment des bandits en fait en arrivée ici. Voilà, on est suivi par des faux flics 24 heures sur 24, la RG qui nous téléphone toutes les 5 minutes. On se demande pourquoi. On comprend pas en fait. Tout cet argent qui est dépensé pour 4 petits mecs qui veulent simplement retrouver leur boulot, c'est un truc de dingue quoi.
Gaëtan, alors c'est votre deuxième virée à la capitale?
Ouais, c'est la deuxième fois et puis j'ai vu la tour Eiffel, ça y est. J'ai vu plein de choses, j'en ai pris plein les yeux. Et puis on a vu du beau monde aussi, donc voilà, c'était super.
Mais qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens à qui vous expliquez ce qui vous arrive alors?
Ils sont comme nous, ils comprennent pas. Pourquoi, du comment, ils comprennent pas. Ils se posent les mêmes questions que nous, pourquoi le juge a décidé de donner notre outil de travail à Cookie.
Le TGV 6951 à destination d'Annecy va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention.
Tribunal de commerce de Grenoble. Liquidation judiciaire. SAS Ecoplat France. Ordonnance. 16 juin 2016. Considérant que suite au prononcé du jugement de liquidation judiciaire, sans autorisation de poursuite d'activité, de plus que l'ensemble du personnel a fait l'objet d'une procédure de licenciement, Fort, juge commissaire de la liquidation judiciaire de SAS Ecoplat France, assisté de deux associés. Vu la requête présentée par Dominique Maslon, mandataire judiciaire de
Ecoplat. Présidente du syndicat de la magistrature, Clarisse Taron.
Alors là, on s'intéresse, Clarisse Taron, à cette histoire d'Ecoplat, donc cette boîte qui est mise en redressement très rapidement en liquidation, dont les salariés proposent de faire une reprise en scope, et même cette proposition n'apparaît pas dans l'ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble, étonnamment. Et du coup, on se pose la question du fonctionnement donc, de ces tribunaux de commerce.
C'est vrai que le syndicat de la magistrature s'est souvent inquiété, comme d'autres d'ailleurs avant lui, du fonctionnement des tribunaux de commerce dans ce pays. C'est un fonctionnement en tout cas particulier, dont l'un des objectifs, et il est louable, est de permettre à ce que la justice soit rendue par des gens qui connaissent le monde de l'entreprise et des affaires, et des juges professionnels pouvaient mal le connaître. Du coup, les juges consulaires dans ce pays sont des juges élus, bénévoles, issus de l'entreprise, qui prennent des décisions dans les procédures concernant leurs collègues ou concurrents. Ça, et notamment dans certains petits tribunaux de commerce, le risque de collusion, d'intervention quelquefois douteuse, parce qu'on peut avoir en procédure collective ce qu'on appelait autrefois une faillite, par exemple un concurrent ou un sous-traitant d'un concurrent, et on ne sait jamais tout à fait dans les tribunaux de commerce, on peut s'inquiéter sur les motifs réels qui poussent à prendre une décision. Malgré tout, ce sont des gens qui ne sont pas forcément juristes. Or, appliquer le code de commerce n'est pas toujours simple, ce qui fait qu'une de nos propositions, par exemple, vise à ce qu'on appelle l'échevinage, qui consiste à mettre un magistrat professionnel comme président avec des assesseurs, juges consulaires. C'est ce qui existe déjà dans les départements d'outre-mer et en Alsace-Moselle et qui donne satisfaction parce qu'on a du coup cette double aspect qui est un juriste dont on peut espérer qu'il est indépendant des enjeux des affaires de la région et des juges consulaires formés et qui connaissent le monde des affaires et qui peuvent aussi, par exemple, expliquer que on a acheté une entreprise trop chère ou que l'entreprise ne se porte pas bien pour telle et telle raison de gestion, dans lesquelles, enfin, des compétences que des magistrats professionnels n'auront pas. L'autre aspect est que les greffiers des tribunaux de commerce sont encore des titulaires de charge et ils avaient d'ailleurs été dénoncés par Macron pour dire que la moyenne de revenus des greffiers de tribunaux de commerce dans ce pays est de 29 000 euros par mois et qu'on pourrait peut-être s'attaquer à leur monopole et nous, nous réclamons la fonctionnalisation de ces greffiers de tribunaux de commerce parce que là encore, ce sont des greffiers de tribunaux de commerce qui ont en fait une étude avec des salariés et qui vivent quand même sur les inscriptions religieuses du commerce et sur des entreprises qui peuvent parfois être en difficulté. Et puis, le dernier aspect de la justice commerciale, c'est la question des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires qui sont des gens sur lesquels nous, on considère qu'il n'y a pas assez de contrôle, que ce sont des gens qui sont les premiers rémunérés sur une entreprise en difficulté et que le contrôle de l'institution judiciaire sur leur fonctionnement est insuffisant. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur les tribunaux de commerce. Il y a une réforme que nous, on appelle de nos voeux depuis des années et qu'aucun gouvernement n'a eu le courage de mener à terme, alors qu'il y a eu d'ailleurs des missions d'inspection de l'État qui ont pointé les mêmes dysfonctionnements que nous pointons. Et puis il y a de temps en temps des affaires retentissantes dans les tribunaux de commerce. Et malgré ça, c'est une espèce d'institution assez puissante et à laquelle personne ne touche.
Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tout ce qui paye l'ISF et la liberté d'entreprendre. Et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF. Car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible. Et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible d'Adam Smith. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. Ils disent que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi parce qu'il peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les cons et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il ne reste que, il ne reste rien à la fin du mois.
Donc voilà, à partir de là, tu rentres dans l'illégalité, comme les salariés des Copla, on n'a plus le droit d'être là. Mais on prend le droit.
Voilà, notre ami, c'est l'emploi, et Copla Scope vivra.
Bon, ben voilà, on est au QG.
Salut Gaëtan.
Salut Christophe.
Donc là, ici en pointé, hein, tous les matins, quand on
arrive. À la pointeuse.
Le chevalier 7746, hein, et là, un employé inconnu.
Il n'y a plus d'employés. Le 16-12-2016, compte tenu du manque de matières premières et de vêtements de travail, il n'y a pas de production jusqu'à nouvel ordre.
Et ça, c'est la mise à mort, quoi, hein, c'est ça ?
Ça y est, c'est fini.
Qui annonçait la fin des activités le 16 février, quoi, c'est ça, ouais. De ce fait, 1. L'accès aux zones réglementées est interdit pour des raisons de sécurité, ateliers, stocks, matières premières et produits finis. 2. Il est recommandé de rester dans les locaux sociaux. 3. Seul l'accès à la pointeuse est autorisé afin de valider votre présence. Entrée, sortie.
Là, on avait. Donc là, c'est l'accueil. Alors, c'était quelqu'un qui faisait un peu tout dans l'usine. Ici, assistant des ressources humaines. Ici, l'infirmerie. Là, il y avait le directeur. Il y avait l'alarme dans tous les bâtiments. Donc, on ne pouvait plus aller sur les presses et sur les outils. On n'avait que la partie bureau qui nous laissait. Puis après, l'alarme, elle est tombée en rade. Donc, il n'y a plus d'alarme, il n'y a plus rien. Donc, les seuls, c'est les salariés qui peuvent faire l'alarme.
Vous préservez l'outil de production et aussi les plantes vertes. Quoi.
Les plantes vertes. Donc en fait, on pourrait un peu égayer ce hall d'accueil. Ouais, voilà, il y a des drapeaux CGT, des plantes. Comme on ne pouvait pas s'en occuper, on les a ramenés ici pour les arroser un peu de temps en temps.
Ouais.
Et puis on a mis des photos, tout ce qu'on a pu faire.
Il y a une revue de presse, hein, c'est ça, le Dauphiné, les anciens salariés, ouais,
là,
des Coplas mobilisés.
Parce qu'on n'avait plus de place où on les mettait.
Oui.
Ah, mais il y en a de partout, mais avec des photos.
Ouais, l'usine nouvelle, les barquettes des Coplas entre deux eaux, un transfert en Italie ou un maintien de leur production en Isère. Donc ça, c'est justement la dernière décision de justice. Hein. Donc qui a accordé justement à l'Italien de reprendre l'entreprise.
Reprendre les machines pour 1,5 million. Alors que nous, on a un projet qui est à 2,3 millions.
Ouais, t'as la lettre ouverte à Emmanuel Macron, celle où on a eu la réponse.
La fameuse lettre ouverte à Monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron, datée du 22 juin 2016. Et vous avez reçu une réponse.
Une réponse le 29 août 2016. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois après. Non, et le 30, il démissionnait.
On est passé sur France 3 à midi.
Ah ouais.
Donc, ça bouge là quand même, hein. Ça a bien secoué cette visite parisienne.
Ah, j'espère, mais bon.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal des Alpes avec aujourd'hui la visite de Benoît Hamon à l'entreprise Ecopla de Saint-Vincent-de-Mercuse. L'ancien ministre a été invité par le collectif de salariés qui défend son projet de reprise en scop de cette entreprise de fabrique de barquettes en aluminium. Alors, sur place, Benoît Hamon, nous allons le retrouver immédiatement en direct de Saint-Vincent-de-Mercuse et au micro de Florine Eba.
Comme ancien ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, j'ai eu beaucoup à travailler sur des projets de reprise en scop par des salariés. Et j'ai constaté quoi sur ce projet-là? Que c'était un projet extrêmement sérieux, parmi les plus sérieux que j'ai eu à connaître. Qu'il n'y avait pas beaucoup de raisons pour justifier que l'on confie la reprise de l'outil industriel à un concurrent italien qui s'empressera de fermer l'outil industriel et donc de détruire l'emploi. Et que quand on a un projet porté par des salariés, soutenu par les collectivités locales, par la région, soutenu par les clients des Coplas, il n'y a rien qui justifie aujourd'hui que l'activité s'arrête. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu répondre à leur invitation et redire combien il fallait que l'on prenne en compte la préservation de l'emploi et de l'intérêt général. Et j'espère que d'ici le 5, le jour de la décision en appel, le gouvernement, et je crois qu'il sera sensible à ces arguments, pourra lui aussi venir en appui de ce dossier.
Vous avez conscience que votre présence ici aujourd'hui a une symbolique forte, puisque vous étiez venu en 2012 défendre le cas d'une autre société en Haute-Savoie, et qu'aujourd'hui elle fait office de modèle et que ça leur donne beaucoup d'espoir?
Ah oui, la SET en Haute-Savoie a été aussi menacée, elle a été reprise par les salariés contre un avis du tribunal de commerce déjà, et aujourd'hui elle est florissante et elle crée des emplois. On est dans un scénario assez semblable, et c'est aussi pour ça que je suis venu ici, pour dire que les sociétés reprises par leurs salariés, contrairement aux préjugés, ont une espérance de vie beaucoup plus longue que quand elles sont reprises par un concurrent. Et si on s'intéresse au maintien de l'emploi et de l'emploi durable, il faut souvent privilégier la reprise par les salariés.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Dernière info rapidement, lundi, ce sera Cécile Duflot qui sera ici en visite à l'entreprise Ecopla, elle qui est en campagne pour les primaires d'Europe Écologie Les Verts.
Alors mon regret profond, et ce pourquoi je suis là aussi, regardant mes responsabilités passées en face, c'est de n'avoir pas vu la rapidité de dégradation de la situation et pas pu empêcher qu'on passe tout de suite en liquidation pour intervenir dans ce moment utile. Une fois la liquidation prononcée, vous n'avez plus la possibilité, de par la loi, de forcer une reprise. Pourquoi ? Parce que les actionnaires ont déjà perdu la main. Et en effet, à ce moment-là, on est devant la main du tribunal qui ne regarde, et c'est le grand défaut du droit français, que l'intérêt des créanciers.
Et oui, après Benoît Hamon, Emmanuel Macron est venu hier à Saint-Vincent-de-Mercuz. Il a tenu sa promesse. Il est venu soutenir enfin la reprise en scop d'Ecopla par les salariés après 2 ans de silence. Non, il n'est pas venu en quart, c'était trop long. Ecopla vivra, une affaire à suivre. Rendez-vous donc le 5 octobre au tribunal de Grenoble à partir de midi pour vous aussi accompagner et soutenir les amis d'Ecopla Scop. Et maintenant, on part en reportage avec Guy Vanctil dans un débat d'idées.
La laïcité, la laïcité, la laïcité, parce que c'est le cœur de la République.
Oh, ma brique est court.
Rarement depuis 1905, on s'était en France autant étrié à propos de la laïcité. La laïcité sonne lalali, alors que le thème est repris par tout l'échiquier politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il ne se passe pas une semaine sans débat ni passe d'armes à son sujet. Car cet unanimisme de façade cache mal de profondes divisions apparues ces dernières années dans chacun des camps, qu'on s'y écharpe à coups de laïcard ou d'islamo-gauchiste. Identité nationale menacée pour les uns, pacte républicain remis en cause pour les autres, la laïcité brandie comme une valeur est peut-être aussi un formidable fauné pour justifier à peu près tout et n'importe quoi à propos de l'islam et de nos concitoyens pas assez race blanche ni tradition chrétienne. Alors, jusqu'à 17h sur France Inter, reportage au cœur d'un débat d'idées. Et vous, quel laïc allez-vous laïquer ?
Donc, on ne peut pas fermer les yeux et mettre la poussière sous le tapis.
Là, le paysage, en tout cas, de la gauche est complètement éclaté.
Est-ce que les terroristes sont des musulmans ? École normale supérieure.
Bonjour.
Mercredi 21 septembre, salle Jean Jaurès, avec une affiche. Printemps républicain. Ah, ils ont mis un petit tract. Les 10 fondements du printemps républicain.
Ça ?
Je vais regarder ça. Le printemps républicain est une association politique à but non lucratif dont le but est de promouvoir et d'encourager les acteurs, les idées et les événements faisant vivre la gauche républicaine.
Pardon.
Le printemps républicain s'oppose absolument à toute forme de discrimination, de discours ou de pratiques racistes, antisémites, négationnistes, homophobes ou contraires à l'égalité homme-femme. Le printemps républicain s'engage à organiser des événements et des rencontres, à diffuser des réflexions et des témoignages qu'il estime contribuer positivement au débat public.
Donc le printemps républicain, avec un mot d'ordre qui m'a fait penser à un vieux discours de Manuel Valls après les attentats de janvier 2015. Rappelez le premier ministre qui disait « laïcité, 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 laïcité ».
La laïcité, c'est ça. La laïcité.
C'est pas que laïcité. De la laïcité, c'est de la République.
C'est notre charte, ça.
C'est... Oui, c'est ça que je voulais dire, voilà.
Valérie Maupas, un des membres fondateurs du printemps républicain.
Les gens commencent à arriver.
Bonjour, salut, ça va ?
Et donc, on est un collectif de gens qui se sont rassemblés autour de questions qui nous paraissaient extrêmement préoccupantes. Questions relatives aujourd'hui à la République et à ses valeurs. Il peut y avoir des attaques contre ces valeurs. Et donc, voilà, le printemps républicain...
Ça, c'est les attaques terroristes ?
Les attaques terroristes, bien sûr, mais c'est aussi... la laïcité a été questionnée, et questionnée aujourd'hui dans le débat public de manière permanente. C'est-à-dire, on a un modèle culturel à défendre, et c'est ce modèle-là, aujourd'hui aussi, que nous souhaitons défendre par nos prises de position.
C'est pas que de la laïcité, c'est de la République.
Bien, bonsoir à tous. Je voudrais vous remercier d'être présents très très nombreux donc, à ce nouveau rendez-vous. Vous avez donné rendez-vous le 20 mars dernier. Alors pendant ces 6 mois, effectivement, on nous a beaucoup demandé ce que faisait le printemps républicain. Alors le printemps républicain, pendant 6 mois, il a travaillé, il a réfléchi à la menace qui pèse aujourd'hui sur notre modèle culturel français.
D'un côté, une vaste question posée par le Printemps républicain en ouverture de son deuxième meeting. Qu'est-ce qu'être français ? Question incontournable pour le journaliste Marc Cohen, parmi les membres fondateurs du mouvement.
Il y a le problème du sécessionnisme, quoi. Des gens qui veulent des horaires séparés dans les piscines. Beaucoup de jeunes se ressentent comme arabes, comme musulmans, avant de se ressentir français.
Le port du voile aussi, qu'on voit de plus en plus, ça m'embête un peu.
Eh bien non ! Je crois qu'il faut dire clairement que la France n'est pas une auberge espagnole, que la France, en effet, est une nation et que cette nation n'est pas une nation-service.
La laïcité ! La laïcité ! La laïcité !
Je crois que les choses sont claires.
Eh bien non !
Ah oui, il a vu, mais on est des rouges bruns. Forcément, on est des rouges bruns.
Allez, on va commencer alors.
Ah,
moi, c'est Rémi. Moi.
Rémi ?
Oui.
Vous êtes à l'entrée de la salle où la Grande Réunion ?
Oui, oui, absolument. Et comme j'étais déjà il y a 6 mois à la Bellevilloise.
Voilà, qu'est-ce qui vous a amené, vous ?
À partir de mes valeurs de gauche, peut-être pas encore quelques temps, ça devait plus durer. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, et depuis un certain temps, il y a eu une impasse sur ces questions-là.
Sur quelles questions ?
Sur les questions laïques. Je suis élu en banlieue, et il y a quelquefois des questions qui peuvent nous être posées comme élus, des confrontations à des phénomènes dans les quartiers. Ah bah tiens, il y a ma collègue qui arrive.
Bonjour.
C'est-à-dire départemental du Val-de-Marne. Voilà.
Oui, vous j'étais
laissé. Moi, je suis adjoint au maire dans ma commune. Voilà. Et chargé en plus des questions de sécurité, de prévention de la délinquance. Donc on ne peut pas fermer les yeux et mettre la poussière sous le tapis. Il ne faut pas non plus être dans le déni. Voilà.
Et d'après vous, il y a une partie de la gauche qui est dans ce déni ?
Ah ben c'est sur la gauche de la gauche, tout un déni d'aveuglement, d'éteignoir mis sur des valeurs ou sur de notions comme l'égalité, homme-femme, plusieurs questions comme ça, voilà.
Là, je vois que vous avez un t-shirt qui dit « Je suis... »
Atterré.
Atterré.
Voilà.
Athée, oui, en deux mots. Quoi.
Voilà, atterré. Les athées ont complètement évacué la scène. Notre ciel est vide. Voilà. Tiens, un autre ami qui vient.
Voilà. Salut Rémi, je te reconnais.
Bonsoir.
Le camarade Marc Cohen. Mais bon, voilà. Enfin, c'est...
Et si je vous dis laïca ?
Non, mais tout ça, c'est des termes polémiques. Moi, je me définis comme laïque, sans qualificatif. Voilà.
Le débat sur le principe de laïcité résonne au plus profond de nos consciences. Dans notre République, chacun est respecté dans ses différences parce que chacun respecte la loi commune. Mais le monde change.
C'est en bas, faut suivre la salle.
Je m'appelle Simon, je suis étudiant à l'École normale supérieure, membre de la section socialiste de l'École normale supérieure, enfin secrétaire même, et membre fondateur du Printemps républicain. C'est un mouvement qui trouve ses origines intellectuelles, politiques, militantes à gauche. C'est un des buts de ce mouvement, c'est rappeler qu'à gauche existent aussi des voix républicaines, anticommunautaristes, et défendant cet idéal-là, et que la gauche tout entière n'a pas à basculer dans une forme de défense inconditionnée de toutes les mouvances de l'islam de France, y compris les plus dangereuses et les plus radicales.
Est-ce que vous, qui vous définissez en tant que socialiste et républicain, avec ce printemps républicain, est-ce que c'est pas encombrant justement de voir que, par exemple, Marine Le Pen récupère la thématique laïque républicaine ?
Alors, si, c'est problématique, en effet. Mais d'une part, il faut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on a laissé tous ces thèmes-là au Front National, que ce soit la sécurité, que ce soit la République, l'amour de la nation, la laïcité. Par ailleurs, il ne faut pas avoir peur d'un amalgame infamant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous faire en permanence un chantage à vous être proche du Front National, parce que, enfin, il faut comprendre ce que Elisabeth Badinter disait. Elle ne disait pas « soyons fiers d'être islamophobes ». Elle disait « l'accusation d'islamophobie est utilisée par des gens qui sont des adversaires » et qui est une accusation qui sert à nous discréditer. Mais si les islamistes considèrent que ne pas vouloir l'imposition de l'islamisme dans la société, c'est être islamophobe, alors oui, dans ce cas-là, nous le serons, mais ce n'est pas de l'islamophobie. Si Marine Le Pen, dans un discours, dit des choses de sens commun, on ne peut pas à chaque fois dire l'opposé de ce qu'elle dit. Je veux dire, personne ne peut accuser le Printemps républicain d'être membre du Front National, ce n'est pas possible. Enfin, j'ai l'impression.
La laïcité ! La laïcité !
Je crois que les choses sont claires.
Eh bien, non !
Je ne peux évidemment, à ce moment de mon intervention, que féliciter la lucidité exprimée par Elisabeth Badinter dans un article dans lequel elle a déclaré, en dehors de Marine Le Pen, « plus personne ne défend la laïcité ». Et elle continue, « la gauche a laissé s'installer l'équation suivante, défense de la laïcité égale racisme ». Eh bien, elle a raison.
évidemment sur le résultat du sondage que nous avons vu.
C'est le deuxième débat qui commence à la soirée du printemps républicain. Je vous attrape deux secondes parce que vous étiez en train d'écouter attentivement. Comment je vous présente ?
Benjamin. J'ai fini mes études dans les affaires publiques à Dauphine, maintenant sur le marché de l'emploi. J'aime beaucoup le printemps républicain. Les problématiques du printemps républicain m'intéressent. C'est comme un rafraîchissement. Ça nous permet de refaire vivre la démocratie et refaire vivre la gauche également.
Vous avez des engagements d'avant dans d'autres partis, dans d'autres groupes ?
Tout à fait. En fait, je suis militant aux Républicains à l'UMP. Donc, ex-UMP, je suis militant aux Républicains. Même des gens de droite peuvent se reconnaître dans ce combat, même si le mouvement Printemps Républicain a une tradition plutôt orientée à gauche, ce que je respecte totalement.
Vous vous y trouvez à votre place, quoi.
Je m'y trouve à ma place, tout à fait. La gauche a un problème d'angélisme, parfois, et le Printemps Républicain essaye de recadrer, toujours avec ce prisme de la laïcité. Voilà.
Donc vous êtes l'arbitre des Républicains au Printemps Républicain.
Voilà. Je suis militant Les Républicains du Printemps Républicain, donc un total républicain.
Ouais, allez-y, je vous laisse filer.
Laïcité, grande œuvre humanitaire.
Laïcité, l'égalité sont les piquets de ta liberté. Et ta liberté, arrête de la gâcher.
Prends un bruit qui court.
Le même soir où a lieu, dans les prestigieux locaux de l'école normale supérieure rue d'Ulm à Paris, dans le 5e arrondissement, la réunion des 6 mois du printemps républicain, voilà que dans le 20e arrondissement, juste derrière le Père Lachaise, boulevard de Charonne, se tient une contre-réunion. Commencée à la même heure, ici, c'est pas le printemps républicain, c'est un printemps de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Agir contre l'islamophobie et les racismes. Meeting à l'espace Confluence, toujours le 21 septembre, après les laïcars, voici dans le camp d'en face.
On reste dans un constat. Moi, tout ce que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure, c'est... On a été jusqu'à nous expliquer ce que c'était que la laïcité. À un moment donné, il faut dépasser ça.
Alors, je suis Myriam, membre d'Alcir, l'association de lutte contre l'islamophobie et les racismes.
Commencer avec des mères de famille de l'école.
Oui, l'association est née après les attentats de Charlie Hebdo, avec la montée des actes de plus en plus islamophobes. Et effectivement, de mamans dans les écoles, elles ont décidé de se réunir et de faire porter leur voix. Et elles continuent, notamment aujourd'hui, une riposte au printemps républicain.
Au même moment où on parle, là, à quelques kilomètres d'ici, à l'école normale supérieure, le printemps républicain, cette association, là aussi, eux se considèrent de gauche, se considèrent républicains et se considèrent laïcs. Et surtout pas anti-musulmans ou...
Le plus important, c'est entre guillemets, ils se disent. Ils se disent de gauche, parce que la gauche, c'est pas ça. On brandit le drapeau de la laïcité pour exclure, finalement. Exclure des personnes supposées religieuses.
Et mais... vous, par exemple, vous êtes religieuse ?
Pas pratiquante, mais je suis croyante, ouais. Alors, voilà, chacun sa volonté et... Mais c'est violent, enfin, je ne pense pas que c'est en humiliant une femme qu'on va l'aider à se libérer. Le féminisme, pour moi, c'est pas ça, non.
Un foulard est un foulard. Bon. Un burkini est un burkini. Oui. Une burqa est une burqa.
Manuel Valls a tranché. Le Premier ministre estime que le port du burkini n'est pas compatible avec les valeurs de la République.
La laïcité !
On nous explique maintenant que prendre un arrêté anti-burkini n'est pas compatible avec la Constitution. C'est pas ça ce que j'attends. Ce que j'attends d'un politique, c'est pas qu'il ne se soumette à la loi, c'est qu'il fasse la loi.
Yasser Louati.
Toujours militant des droits de l'homme et des libertés publiques et spécialiste d'islamophobie et des lois sécuritaires.
Et je vous trouve ici ce soir à cette réunion du 20e arrondissement contre l'islamophobie, pour la liberté, pour la légalité et pour la fraternité, alors que se tient au même moment, à la rue d'Ulm dans le 5e arrondissement de Paris, une réunion du printemps républicain. C'est la laïcité devenue une valeur sur laquelle on s'étrille aujourd'hui en France.
En fait, c'est plus que ça. La laïcité, malheureusement, a été instrumentalisée au point de passer d'une valeur constitutionnelle à un outil idéologique d'exclusion et de domination. Lorsque vous vous réunissez, vous accaparez les termes de république et que constamment vous êtes en train de monter les Français les uns contre les autres en période de chômage massif, en période de précarité qui augmente, en période de millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 9 millions selon Emmaüs, les gens vous disent « passons d'abord et parlons des priorités des Français ». Arrêtez de la bassiner en lui disant « ton pire ennemi, c'est ton voisin ». Le pire ennemi aujourd'hui, ce sont les inégalités qui sont mises en application par une oligarchie motivée par l'agenda néolibéral. L'agenda néolibéral a besoin d'un bouc émissaire pour faire diversion sur les débats de société et tout en faisant passer des lois liberticides comme on le voit aujourd'hui. Quand j'écoute des fois Manuel Valls, ben, comme disait Marine Le Pen, j'ai l'impression d'écouter un Le Pen qui parle.
Quand vous entendez Manuel Valls dire qu'il va falloir que l'islam fasse la preuve de sa compatibilité, je le crois, dit-il, avec la République, vous avez l'impression d'entendre le Front National. La bouche de Manuel Valls.
Pardon, j'ai l'impression de me lire. Hein. Je vois que, comme d'habitude, nous avons raison, mais 10 ans trop tôt, en fait.
La laïcité.
C'est moi qui ai posé le problème des prières de rue. C'est moi qui ai mis au centre du débat politique la laïcité.
Je crois que les choses sont claires.
Nos valeurs si belles.
Il faut censurer, sanctionner toutes les atteintes à la loi de 1905. Il doit interdire halal, interdit alimentaire religieux dans les cantines scolaires, l'aménagement d'horaires particuliers dans les piscines pour les femmes musulmanes, halal. C'est moi qui ai posé le problème des prières de rue. C'est moi qui ai mis au centre du débat politique la laïcité. C'est moi.
Les véritables défenseurs de la République, c'est nous.
C'est moi.
Je mets ma carte.
Ouais, bah, voilà.
Allez, on sait jamais. Bon. Comme ça, si vous avez besoin de moi, du coup, vous m'appelez.
Non, vous m'appelez, non.
C'est très bien celle-là, voilà. Commission Islam et laïcité.
Alors, donc, je suis Sman Chouder, et entre autres, parmi mes diverses activités, je suis vice-présidente de la Commission Islam et laïcité et coprésidente du collectif des féministes pour l'égalité.
Vous, la laïcité, c'est votre boulot aussi.
Ben oui, exactement. Et c'est d'autant plus mon boulot que la laïcité, c'est un outil de pacification qui a été pensé par ses pères fondateurs comme un outil libéral pour justement gérer la diversité. C'est-à-dire l'État se tient à distance des religions et maintient les religions à distance de la chose publique, mais sans nier le fait qu'il peut y avoir des expressions dans un espace laïque. Moi, je pense à chaque fois, je cite la phrase d'Aristide Briand qui disait que la loi 1905 a été pensée de telle manière à ce qu'aucun citoyen de ce pays n'ait jamais à choisir entre ses convictions, quelles qu'elles soient, et la République. La laïcité est devenue en fait une espèce de porte-drapeau pour toutes celles et ceux qui pensent la société française dans une espèce en fait de moule monolithique, érige en fait des questions sur le registre purement identitaire pour déboucher aussi sur des questions sécuritaires. Ce qui est brandi, c'est de vivre ensemble, mais concrètement, ce qui est promu et dans les discours et dans les actes de nos politiques, ce que ça crée, c'est que le sentiment de quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelle que soit la manière dont on vive, dont on s'engage, qu'on soit impliqué dans cette société, nous sommes toujours invariablement renvoyés à l'autre avec un grand A, donc l'altérité. J'ai appuyé sur le fait des Gaulois, c'est pas anodin. Appuyer sur des choses aussi, des faits divers, complètement épidermiques, anecdotiques, c'est pas anodin. Ça crée le sentiment que quoi qu'on fasse, on sera jamais français, tout à fait comme les bons français, les vrais français.
Les français laïcs.
Les français laïcs, et sachant que moi j'ai du mal à utiliser ce terme, parce que laïque, ça renvoie à quelque chose de beau, de bien, qui est justement une valeur ajoutée sur le fait de comment fait-on société ensemble, avec nos attachements, mais par-delà nos appartenances.
À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et ces Vercingétorix. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation.
Nos ancêtres, les Gaulois.
C'est moi.
Cheveux blonds et tête de bois.
C'est moi.
Ne connaissaient que ce refrain-là.
La laïcité, la laïcité.
Pierre Thévagnan, je vous retrouve, bonsoir, puisque maintenant il est tard, et je vous retrouve après la soirée de l'École normale supérieure. Et je rappelle que vous êtes philosophe, écrivain, membre du collectif Les mots sont importants. Et il y a un mot qui me chiffonne et qui me préoccupe moi, dans ces questions, en passant d'ici, c'est-à-dire ici, rendez-vous, de ce que je tiens à vous le préciser, j'espère que ça ne va pas vous vexer, mais vous êtes les uns et les autres qualifiés par mes premiers interlocuteurs d'islamo-gauchistes.
Oui, 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 j'ai l'habitude.
C'est le mot de laïcité et de ses usages dans la société française aujourd'hui.
Gros sujet. Parce qu'effectivement, d'abord, tout le monde peut le constater, c'est un mot qui est omniprésent, d'une manière très particulière. Du concept de laïcité, on a fait à peu près l'exact opposé de ce que c'était censé être et de ce que ça avait été dans des textes de loi pendant un siècle en France. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'enjeu du débat parce qu'il n'y a plus de clergé dominant qui jouit de privilèges. Donc, de ce point de vue-là, la France est laïcisée, sécularisée. Mais par contre, alors, on redécouvre, il serait nécessaire, nous dit-on, de poursuivre ou reprendre le combat laïque. Contre quoi ou contre qui ? Contre quel clergé ? Contre quelle puissance politique ? Aucune, puisque c'est l'islam. Et l'islam, c'est une entité abstraite. Derrière l'islam, c'est les musulmans. Et les musulmans, ce sont des personnes, ce sont des citoyens.
Mais là, ce qui vous répondrait, mes amis du printemps républicain, c'est que, au contraire, c'est ce corps étranger dans la République qui refuse de s'intégrer, qui refuse de jouer les règles qui ont fonctionné, comme vous le disiez, depuis 110 ans.
Les musulmans donc, en question, dont vous dites qu'ils rechignent à se soumettre à des lois centenaires, ne font qu'au contraire rechigner à de nouvelles lois et ne demandent rien d'autre que d'être traités suivant l'ancienne loi, celle qui a fonctionné depuis Jules Ferry, depuis la loi de 1905, à savoir une réelle neutralité de l'État qui ne les montre pas du doigt, qui ne construit pas sur mesure pour eux des lois d'exception et qui ne leur impose aucune injonction à la discrétion. Ça s'appelle le débat démocratique.
Et alors, Pierre Thévagnan, qu'est-ce que ça veut dire sur notre société qu'autant d'énergie ait été dépensée sur ces problématiques-là et autant de clivages soient apparus à gauche comme à droite? Mais voilà qu'on est arrivé à ce que vous appelez une laïcité identitaire.
Alors, bon, on le voit, hein, maintenant, moi je sonde même mes élèves, et, la laïcité, ils me disent, on nous a répété à l'école depuis tout petit que la laïcité, c'est de ne pas parler de religion, de ne pas s'afficher, de ne pas dire ses préférences religieuses, etc. C'est d'être neutre soi-même. Et donc, c'est de se conformer à une norme identitaire qui va très loin, puisqu'elle peut être vestimentaire. C'est devenu un dress code. Être laïque, c'est devenu une manière de s'habiller, c'est une manière de se présenter, discrète plutôt qu'ostensible, etc., etc. Elle est identitaire, enfin, en un dernier sens, là, plus philosophique, je suis prof de philo, c'est qu'elle confond d'une manière vraiment problématique l'égalité et l'identité. Le fait d'être égaux, en droit, par exemple, avec le fait d'être identique. Or, c'est pas du tout la même chose, puisque le fait d'être égaux ne s'est jamais opposé au fait d'être différent. C'est toujours deux personnes différentes qui seront traitées également, qui auront les mêmes droits. Vous et moi, on est différents, chaque personne est différente. C'est ça que j'appelle une laïcité identitaire. Tu seras égal si tu veux bien être identique.
Bonsoir. Dossier tabou, c'est la nouvelle émission dans laquelle je vais enquêter, explorer les grandes questions de société, ces questions qui dérangent, provoquent un silence gêné ou déclenchent la polémique. Dans Dossier tabou, j'enquête pour vous sur la place de l'islam en France. Voile intégrale, école coranique, application de la charia. Que veulent vraiment les dirigeants de l'islam dans notre pays? Ont-ils un plan caché? Comment la République française fait-elle face à la pression intégriste qui défie ses valeurs? Des réponses aux questions que vous vous posez.
Sur M6.
Bonsoir.
C'est placement libre et ça a commencé il y a environ 30 minutes.
Oui, merci beaucoup. Nous voici maintenant à l'Institut du Monde Arabe à Paris, dans le 5e arrondissement, pour une conférence des jeudis de l'Institut du Monde Arabe qui s'intitule « Islam et laïcité ».
Des cas d'élèves, des témoignages. Voilà, le micro est en train d'arriver. Alors, y a-t-il un premier intervenant devant?
Je suis Jérôme Martin, je suis professeur de français à Saint-Denis dans le 93 et membre du collectif des enseignants et enseignantes laïques.
Je suis Caroline Isambert, je suis membre du cercle des enseignants laïques, professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis.
Je suis Florine Leplâtre, membre du cercle des enseignants laïques et prof de lettres en lycée à Saint-Denis.
C'était quelle émission à France Inter où ils vous ont cassé avec les éditorialistes?
Le Club des Idées.
Le Club des Idées à 9h50 avec donc un livre. Laurent Geoffrin, Alexis Brézé. On est complice de ceux qui lapident les femmes. C'est Alexis Brézé qui dit ça, l'employé de Dassault qui dit ça.
Ah bah zut alors, moi je suis tombé encore sur des islamo-gauchistes,
c'est ça. Et en plus, je leur donnais la parole.
France Inter,
le 6-9 du week-end.
Le Club des idées en compagnie de Laurent Geoffrin de Libération et d'Alexis Brézé du Figaro. Vous
Bonjour.
Avez lu pour nous le petit manuel pour une laïcité apaisée.
Ce livre, il faut l'encadrer, il faut le mettre sous cloche, il faut le mettre dans un musée pour l'édification des générations futures, pour leur montrer jusqu'où l'aveuglement volontaire, la cécité idéologique a pu conduire un certain nombre d'intellectuels au début du XXIe siècle sur la relation avec l'islam. C'est absolument stupéfiant.
Depuis... Qu'est-ce qui vous a stupéfié comme ça
Eh bien là, on a sous la main une petite poignée, 5 ou 6 profs qui nous disent, et peut-être le disent à leurs élèves, que la charia n'est pas contraire aux droits humains. Et bien après, on s'étonne d'avoir des jeunes femmes qui posent des bombes dans les rues de Paris. Ces jeunes femmes, elles ont été dans des écoles. Et bien voilà ce que ça donne. C'est inouï.
Petit manuel pour une laïcité apaisée, Laurence. À l'usage des profs, des élèves et de leurs parents, dont par Jean Bobéro et le sac des enseignants laïcs, et c'est publié aux éditions La Découverte.
Alors justement, moi je vous avoue qu'avec cette question de laïcité, je suis un peu confus à ce jour. J'étais hier à 2 réunions à la suite, successives, celle du printemps républicain, qui a clamé haut et fort, il y a 6 mois de ça, son attachement à une laïcité de combat. Et puis après, je suis allé à un rendez-vous dans le 20e arrondissement avec une association de lutte contre les racismes de mères de famille qui, eux, parlaient d'une laïcité inclusive. Et c'est pour ça que j'ai presque envie de faire appel à vous comme ceux qui sont sur le terrain, à la différence des éditorialistes, sur le regard que vous avez, comment ça se vit sur le terrain.
Oui, en fait, certains acteurs médiatiques cherchent à s'approprier la laïcité comme s'ils la brevetaient. Et dans l'ouvrage qu'on a écrit, on cherche à restituer la complexité et l'historicité de ce principe, à la fois la liberté de conscience et la non-discrimination des citoyens. Et au service de ces principes, il y a la neutralité de l'État et la séparation des églises et de l'État. Mais après, selon l'importance qu'on donne à chacun de ces aspects, il y a différentes interprétations de la laïcité. Et la façon dont certains s'approprient, brevettent la laïcité, finalement, ça produit des effets très pervers. C'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir une désaffection pour ce concept parce que la laïcité a été malmenée et appropriée, notamment par Marine Le Pen, par Nicolas Sarkozy, qui ont cherché à faire croire que la laïcité, c'était de ne pas manifester sa religion. Que ce soit dans l'espace public et puis aussi à l'école. Et ça, c'est extrêmement nocif. Parce que selon la façon dont c'est interprété, ça conduit certaines personnes à penser que les musulmans n'ont pas leur place dans ce pays, au final. C'est ça qui nous amène, à force d'amalgame en confusion, à faire que des policiers verbalisent sur la plage une femme qui porte un hijab.
Il y a des gens qu'on oublie trop souvent, c'est les parents d'élèves des quartiers où on enseigne qui sont les premiers défenseurs de l'école publique. Qui est-ce qui se lève à 6 heures du matin pour déployer des banderoles, pour interpeller l'inspection académique? Ce sont des parents d'élèves. Parmi ces parents d'élèves, il y a des mamans voilées. Et qu'est-ce qu'elles réclament? Elles réclament pas plus de religion à l'école. Ces femmes, elles réclament des professeurs, un enseignement de qualité et la réussite scolaire de leurs enfants et de l'ensemble des enfants de leur quartier. Franchement, pour nous, c'est ça des modèles républicains. Et c'est peut-être la meilleure défense de l'idéal laïque.
Au lendemain des attentats de novembre 2015, j'anime un débat préalable à la minute de silence, ce qu'on nous demande de faire, donc juste le lendemain. Et des élèves commencent à échanger entre eux, j'orchestre juste la répartition de la parole, est-ce que les terroristes sont des musulmans? Et donc, oui, ce sont des musulmans, non, ce ne sont pas des musulmans, car l'islam nous interdit de tuer, et d'autres élèves qui répondent, musulmans ou pas, mais quand même, ils se réclament de l'islam, donc on est bien obligé de dire qu'il y a quand même quelque chose autour de ça. Un débat qui dure quelques minutes, et tout d'un coup, interrompu par une élève qui dit, mais non, ce n'est pas possible, il y a la laïcité, on ne peut pas parler de tout ça, on ne peut pas parler de religion. Donc, quelque chose donc, que j'ai dû reprendre, alors même que je pensais que c'était acquis auprès des élèves, et une réaction qui témoigne, qui a tétanisé tous les élèves qui ont dit, ah oui, c'est vrai, et qui témoigne des conséquences que l'on a de ce matraquage qui tendrait à nous expliquer que la laïcité, c'est la neutralité des élèves et de leur famille, et qui est très préoccupante et qui devrait préoccuper tous ceux qui sont attachés à la liberté de conscience et à la liberté de pensée et d'expression.
Fournier.
Je crois, hein, quelqu'un nous fait des grands signes, le monsieur.
Bon, on peut continuer en marchant, ouais. Comme ça je vous pose encore 3 questions.
Je m'intéresse de très près au recul de la laïcité et aux avancées très inquiétantes des revendications politico-religieuses.
Pour vous, même Marine Le Pen est devenue fréquentable.
C'est moi.
Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous diviser. Incapable de rassembler, vous stigmatiser.
Ces gens-là.
Aveuglés par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus plus que le visage de cette femme voilée. Que vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de joie. Vous êtes même prêts à livrer les polios au Qatar.
J'aime la France.
Votre jeu est trouble.
Qui est mon adversaire?
Votre discours est double.
Les pauvres
pays dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. La ronde C, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S?
La laïcité.
La laïcité.
Le principe de laïcité.
Bon, je vais faire le lien entre la laïcité et l'immigration, justement.
Je crois que les choses sont claires.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, notamment les références pour le petit manuel pour une laïcité apaisée aux éditions La Découverte. Juste après les infos, vous retrouvez André Manoukian et nous on se retrouve samedi prochain à 16h.